Je l'invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu. Psaume 102. On va le lire au complet. Parce que c'est la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et je trouve que c'est un excellent modèle pour quiconque vit un malheur, pour quiconque se sent seul, pour quiconque est désespéré, pour quiconque est découragé. Je trouve que c'est un très beau modèle de prière, parce que non seulement on a une prière, mais c'est un psaume qui se divise en deux parties, on va le regarder tantôt. On a la prière, on a la demande, mais on a aussi la réponse. Et si ce matin, eh bien, vous vivez une situation difficile, si vous avez besoin d'être encouragé, eh bien, la Bible, à travers la prière de ce malheureux, la Bible nous donne des réponses que souvent les hommes n'ont pas, que les hommes ne peuvent pas nous apporter. La Bible nous donne des réponses. Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Ça veut dire quoi? Je suis dans une souffrance épouvantable, quoi. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Le chat huant, bon, on sait c'est quoi? C'est la chouette ou le hibou, quoi, hein? Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Il est attentif à la prière du misérable. Il est attentif à la prière du misérable, il ne déteigne pas sa prière. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Il ne la rejette pas, sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges en Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront, et là il parle du ciel et de la terre, hein, tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affirmera devant toi. Prions. Père Céleste, nous voulons encore une fois te rendre grâce, Seigneur, pour ce modèle de prière que tu nous as laissé ce matin. Seigneur, souvent dans la détresse, dans la solitude, dans le désespoir, Seigneur, nous sommes à court de mots pour nous présenter devant toi. Et nous sommes ici, Seigneur, en présence de quelqu'un qui a passé, Seigneur, qui a passé par les tempêtes de la vie, qui a été secoué par les vents, Seigneur, les vents de ce monde qui souvent veulent nous projeter, Seigneur, veulent nous conduire à la dérive et nous projeter contre des rochers pour nous blesser. Mais, Seigneur, cette prière, elle est une source de réconfort pour chacun de nous. Parce que, Seigneur, personne dans la vie, personne n'est épargné du vent, personne n'est épargné des tempêtes. Et Seigneur, nous voulons utiliser cette prière, Seigneur, lorsque viendra le moment des tempêtes, de faire appel à toi. Parce que, Seigneur, comme ce texte le dit, Seigneur, toi, tu dures éternellement et tu ne changes jamais. Nous pouvons toujours compter sur toi. Ce matin, nous te demandons de bénir ta parole, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais ce que chaque personne vit en ce moment dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, nous savons que personne ne s'est déplacé pour rien ce matin. Nous savons que tu as une vraie parole en réserve pour chaque personne ici ce matin. Ouvre les oreilles de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions non seulement entendre, mais recevoir et mettre en pratique cette parole que tu veux nous enseigner. Et nous te le demandons pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Amen. Alors, c'est pas un titre trop édifiant quand vous regardez le titre du psaume. Je ne sais pas en français courant qu'est-ce qui est marqué. Je ne sais pas si dans vos bibles c'est marqué la même chose que moi. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu, qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Ce qui est extraordinaire, quand je dis qu'il y a personne qui est épargné de vivre un moment de solitude dans sa vie, de vivre un moment de désespoir, de vivre un moment de découragement dans sa vie. On peut, à travers les Écritures, on peut regarder les plus grands personnages de la Bible ont lutté avec la solitude, ont lutté avec le désespoir et le découragement. Si on prend l'exemple de David, qui était un roi oint par Israël, oint par Dieu, par Samuel, pour devenir le roi d'Israël, il avait reçu des capacités, des dons de la part du Seigneur, et il a remporté de nombreuses victoires lors de différentes guerres qu'il avait livrées à l'ennemi. Peut-être même que personne n'avait jamais vécu dans sa génération. C'est un roi qui a remporté des victoires par-dessus victoires. C'est un roi qui avait des capacités incroyables. Cependant, à un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé au fond d'une grotte. C'est fort, hein? Il se retrouve au fond d'une grotte, psaume 142, verset 5, pour ceux qui ont leur Bible. Il dit, « Je jette les yeux à droite et je regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Personne ne comprenait ce qu'il traversait, et selon lui, personne ne cherchait à savoir ce qui n'allait pas dans sa vie. Il ne pouvait trouver aucun réconfort autour de lui. Et souvent, ça peut arriver qu'un frère ou une sœur puisse rentrer dans ce lieu le dimanche matin et puisse vivre une grande solitude, un grand désespoir, un grand découragement dans sa vie. Elle va entrer, elle va sortir, sans que personne puisse l'avoir demandé comment ça va dans ta vie. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et elle retourne. Elle retourne, elle est venue à l'église, elle a entendu la parole, mais elle aurait peut-être eu besoin aussi qu'un frère ou une sœur puisse prendre de ses nouvelles pour savoir comment ça va. Je pense qu'à travers ce texte-là aussi, en tant que corps, en tant que famille, en tant que troupeau, on a besoin aussi, si on n'est pas capable de se rencontrer tous les jours, on a besoin aussi des fois de se donner des coups de téléphone pour savoir comment ça va les uns les autres. Premièrement, pour être capable de prier. Premièrement, pour avoir de la compassion pour ce que notre frère vit. Il y a des gens qui sont malades. J'espère que tous les chaises vides ce matin, il y en a quand même pas mal. J'espère que ce n'est pas tous des gens qui sont malades. Mais si c'est le cas, eh bien, vous voyez les chaises, vous savez à peu près quel visage. Vous êtes capable de mettre un visage sur chaque chaise. Eh bien, faisons un effort cette semaine pour les appeler, pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ça va. On a besoin de s'inquiéter des uns des autres. Hein. Le Seigneur nous dit de pleurer dans les mauvais moments avec ceux qui pleurent, de se réjouir dans les bons moments avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de se préoccuper de ceux qui s'absentent régulièrement à l'Église, sont peut-être malades, et ce serait très gênant pour nous de savoir, après 3 mois, qu'ils sont morts et qu'on ne savait pas, quoi, hein, qu'on l'apprenne par le biais des journaux. Donc, je pense qu'en tant que famille, c'est important qu'on puisse se communiquer régulièrement ensemble pour prendre de nos nouvelles. Pensez maintenant à l'apôtre Paul qui a probablement reçu à son époque la plus grande révélation que le Seigneur a confiée à quelqu'un. Et écoutez les paroles qu'il a écrites à Timothée dans les derniers moments de sa vie. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. J'ai prié Dieu que cela ne leur soit pas imputé. Avec quel grand moment de solitude pour Paul, quoi. Quel grand moment de solitude pour David. Quel grand moment de solitude pour Adam et Ève quand ils ont péché, quoi. Être venu au monde dans la présence du Seigneur et prendre la décision qu'on pouvait se passer de lui, ça devait être un grand moment de solitude pour Adam et Ève. Ça devait être un grand moment de solitude pour Caïn quand il a tué son frère Abel. Dieu a été obligé d'y mettre une marque sur le front pour pas qu'il se fasse tuer par après, pour pas qu'on lui fasse du mal. Quel grand moment de solitude ça devait être pour Caïn. Quel grand moment de solitude, frères et sœurs, ça devait être pour Jésus, lui qui est sans péché, qui est venu sur la terre, sur cette grande poubelle qui est la terre. Quel grand moment de solitude ça doit être pour lui. Un homme sans péché, qui va rencontrer des gens, car tous ont péché, nous dit la Bible. Quel grand moment de solitude ça devait être aussi pour Jésus. Heureusement qu'il était constamment connecté avec son Père Céleste. Heureusement. Mais autant David, autant Adam, autant ces grands personnages qui nous ont précédés, ont tous trouvé leur solution dans la personne de Jésus-Christ ou dans la personne de Dieu. Pour, je vais exclure Jésus, pour les autres, c'est dans la personne de Dieu, dans l'Ancien Testament, mais pour Jésus, c'est dans la personne même de son Père qu'il a trouvé sa réponse. J'ai délibérément sauté deux versets dans le psaume 142. Trouvez avec moi dans le psaume 142. Regardez David, David où il a trouvé son refuge. Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Et au verset 6, c'est pas aux hommes que crier. Éternel, c'est à toi que je crie. Seigneur, ma détresse, elle est grande. Tu la connais. Tu connais ce qui a provoqué cette détresse-là. Seigneur, tu sais déjà la solution. Tu es déjà la solution pour me sortir de ma détresse. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Éternel, c'est à toi que j'écris, verset 6. Je te dis, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Frères et sœurs, son refuge, c'était le Seigneur. Sa façon de s'exprimer, c'était à travers une prière. Et encore une fois, on a un bel exemple ici. 2 Timothée 4, 6 pour Paul. 4.16, hein? J'ai dit 4.6 et 4.16, excusez. Alors, Paul, il doit utiliser sa défense, il prêche l'Évangile, il a été emprisonné, tous l'ont abandonné. Et là, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, c'est-à-dire personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Alors, il n'est pas le premier, hein? On sait que le Seigneur aussi a été abandonné par ses disciples. Et il dit que cela ne leur soit point imputé. Là, on voit quelqu'un qui vit vraiment une relation avec son Seigneur. Au lieu de dire, Seigneur, tire vengeance, vas-y, frappe-les, massacre-les, élimine-moi cette gang, cette bande de gens qui disent confesser ton nom puis qui m'ont abandonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit comme un chrétien, il réagit comme quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Exactement la même prière qu'Étienne dans le livre des Actes. Il est en train de se faire lapider puis il prie. Seigneur, ne leur impute pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La même prière que Jésus sur la croix. Mais regardez, verset 17, c'est celui-là que j'avais pas voulu lire. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Frères et sœurs, quand on n'est pas capable de prendre l'habitude, de prendre un rendez-vous jour après jour avec le Seigneur, quand le Seigneur il s'aperçoit qu'on a tombé dans une routine spirituelle puis qu'on se présente devant lui, puis que là, on est en train de lui sortir un beau discours. On a rempli des pages, on a rempli des sujets de prière, puis là, on sort ça comme un automate, là, on y déboule ça comme un robot, notre cœur n'y est pas. Le Seigneur, il risque de provoquer des choses dans notre vie, pas pour nous amener à continuer à prier et à raconter un discours quand on le rencontre, mais pour qu'on crie vers lui, pour qu'on crie vers lui. Il peut provoquer des moments de solitude. Il peut nous amener dans le désespoir. Ça peut arriver du Seigneur. Hein? Et il peut nous amener dans le découragement aussi. Mais pas dans le but de nous détruire. Dans le but simplement qu'on revienne vers lui et qu'on crie. Moi, je vous dirai pas la nature de ma prière, mais le plus bel exaucement que j'ai eu de la part du Seigneur, c'est pas quand je l'ai prié de la façon que je le prie à chaque jour, c'est qu'un jour, j'ai dû crier à lui. Et quand j'ai crié à lui, dans les larmes, le Seigneur a répondu et le Seigneur m'a délivré. Et ici, vous êtes en présence de personnes, autant le psalmiste, autant l'apôtre Paul, autant Jésus a pleuré. Dans les larmes, ils ont crié. Ils ont crié pour que Dieu réponde à leurs prières, pour que Dieu les délivre de la situation dans laquelle ils se trouvaient, pour que Dieu puisse les restaurer, pour qu'ils puissent repartir. repartir réconfortés, repartir encouragés dans l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Et frères et sœurs, souvent, il y a des gens qui entendent l'Évangile, qui ne sont pas capables de prendre de décision. On leur demande de faire une prière de repentance, ils ne sont pas capables de la faire, et Dieu va provoquer des choses dans leur vie. Dieu va provoquer des situations catastrophiques dans leur vie. Non seulement cette situation va les amener à prier, mais elle va les amener à crier au Seigneur. Que le Seigneur non seulement les délivre de cette situation-là, mais que le Seigneur les délivre aussi de leur péché, pour qu'ils puissent se tourner vers cette croix qui va les délivrer et qui va leur permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. Imaginez jusqu'à quel point Paul devait se sentir seul à cet instant particulier de sa vie, surtout après toutes ces années où il avait consacré toute son énergie pour les églises. Finalement, lorsqu'il fut appelé à répondre au système judiciaire de son époque, personne ne se trouvait à ses côtés pour le soutenir. Imaginez jusqu'à quel point Paul aurait pu se laisser écraser par la solitude alors que tous l'avaient abandonné. De même, jusqu'à quel point nous sommes tentés de lancer la serviette lorsque nous nous sentons seuls, frères et sœurs. Mais ce qu'il rajoute, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Tous peuvent m'abandonner, mais j'ai une conviction dans mon cœur, Dieu sera toujours à mes côtés. Parce qu'il promet dans sa parole de ne jamais délaisser, de ne jamais abandonner celui qui marche fidèlement dans sa parole. Vous dites amen à ça ce matin? Il y a des conditions, hein? Il y a des conditions. Hébreux chapitre 1, versets 10 et 12 est le passage qui confirme que le psaume 102, on s'en va à la rencontre de Jésus. Le chapitre 1, les versets 10 à 12 du livre de l'Épître, de l'Épître aux Hébreux, confirme que le psaume 102 est un psaume messianique. On entre directement dans la présence de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, qui portons un regard plusieurs siècles après que ce psaume a été écrit, plusieurs siècles après que cette prière a été écrite, eh bien, nous, en tant qu'Église, on doit essayer de regarder à travers ce psaume quelles sont les paroles que Jésus a prononcées. C'est pas extraordinaire, ça. Avez-vous remarqué que ce psaume-là, il n'est pas identifié? On va dire que c'est David qui a prié. Ça peut être David qui l'a fait. Mais on tient à... La plupart des théologiens disent que ça remonterait un petit peu après la captivité de Babylone, donc ça remonte assez loin. Mais ce qui est intéressant ici, regardez le psaume 102, versets 26 à 28. Dépendant de vos versions, ça peut être 25 à 27, ça dépend de comment c'est numéroté. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Ces paroles adressées au Fils bien-aimé de Dieu sont une citation que nous retrouvons, dans le psaume, les versets 10 à 12 hébreux, sont des paroles que nous retrouvons dans le psaume 106, les versets 26 à 28. Cependant, le titre du psaume, « Prière de malheureux », lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel, et les 25 premiers versets sont totalement différents avec les 4 derniers versets. Dans le titre et dans la première partie du psaume, nous sommes en présence d'un homme de douleur. Nous sommes en présence d'un homme qui souffre. Mais dans la dernière partie, qu'est-ce qu'on voit? On est en présence du Dieu inébranlable, celui qui ne change pas, l'éternel Dieu. Maintenant, ça, c'est la partie la plus difficile, c'est l'introduction. On va entrer maintenant au cœur même du message. Le psaume, il se divise en deux parties. La première, c'est la prière de celui qui est rejeté. La deuxième, c'est la réponse du Dieu Tout-Puissant à la prière de son Fils éternel. Dans les versets 25 à 28. Et dans sa prière, il y a trois sujets principaux pour ceux qui prennent des notes. La première, c'est sa lamentation. On assiste ici à un dialogue entre le Père et le Fils. Même si nous ne devons pas être dogmatiques sur cela, je pense que les versets 1 à 25, j'ai dit qu'il ne faut pas être dogmatique. Ça veut dire que vous pouvez être d'accord, vous ne pouvez pas être d'accord. Je vous livre, moi, ce que je vois à la lecture du passage. Hein. Je pense que les versets 1 à 25 correspondent à l'essentiel du dialogue que Jésus a eu avec le Père dans le jardin de Gethsémani. Et je m'appuie sur Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Pour ceux qui ont leur Bible, on va se promener avec la Bible ce matin. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8, pour affirmer cela. Il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est difficile d'imaginer la profondeur de cette agonie, au point où la Bible nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, dans Luc. Cette prière était un échange personnel et intime entre lui et son Père, et dans les paroles du psalmiste ici, vous pouvez entendre l'agonie vécue par Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans le verset 2 et 3, il dit « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. » Sa lamentation. Deuxième sujet de prière ici, sa solitude. Les versets 7 et 8. Dans ce passage, l'auteur utilise trois illustrations pour décrire la solitude de sa vie. Je ne sais pas comment c'est écrit en français courant. D'habitude, j'en garde plusieurs versions. Je dois vous dire que j'ai dû modifier mon message très tôt ce matin. Quand le Seigneur nous parle, on l'écoute. Hein? Et je n'ai pas eu le temps de regarder les autres versions. Quoi. Mais il y a trois illustrations ici qui décrivent la solitude de sa vie. D'abord, il dit au verset 7 et 8, « Je ressemble au pélican du désert. » Je suis comme le chat huant des ruines, deuxième illustration, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Et il y a un missionnaire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est Ernest Wilson, qui a été missionnaire pendant 40 ans en Angola, qui écrit dans son commentaire sur ce psaume que le pélican est une image parfaite de la misère humaine. Le pélican, c'est celui qui est assis sur le bord d'un marécage et puis qui a sa tête qui repose sur sa poitrine. C'est l'oiseau le plus sombre et le plus triste. Si vous prenez le temps d'observer un pélican, c'est à peu près l'oiseau le plus sombre et le plus triste que vous pouvez voir dans votre vie. Et cette vision triste, eh bien ici, dans la deuxième illustration, elle est suivie par une deuxième illustration qui est le chat huant, une chouette ou un hibou. Son cri mélancolique est entendu parmi les édifices en ruine. Le hibou, souvent, dans les milieux urbains, on le retrouve dans les édifices sur le haut des édifices abandonnés ou parmi les ruines. Il est assis seul. Hein? Il est souvent le hibou, je ne sais pas s'il y a des hiboux en Europe, oui? OK. Il y en a aussi au Canada. Et on les retrouve toujours tout seuls. Hein? Autant les tourterelles vivent en couple, autant les hiboux, ce sont des isolés, quoi. Des solitaires. Et ils sont souvent, on les retrouve aussi à un endroit qui n'est pas trop édifiant. On les retrouve souvent sur les pierres tombales des cimetières, dans les cimetières. Ou dans des endroits, dans des arbres, dans les cimetières. Quand il y a des arbres dans les cimetières, on les retrouve là. Ils sont vraiment, ils représentent, ils reflètent vraiment l'image d'une personne abattue, quoi. De toute façon, vous avez entendu le ululument, le cri d'un hibou, on va dire en français, quoi. Le cri d'un hibou, c'est triste à mourir à entendre le cri d'un hibou, quoi. Il n'y a rien qui peut vous apporter le sourire. Et le troisième ici, la troisième illustration que le psalmiste n'a pas, c'est le moineau. Le moineau qui est un oiseau social. Mais quand il perd sa partenaire, il est l'image muette de la solitude. Et là, on a trois belles illustrations ici. Et ces trois illustrations représentent parfaitement bien le délaissement, l'abandon, c'est-à-dire, et la solitude. La solitude vécue par Jésus sur la terre, qui est soulignée dans les évangiles, dans au moins trois passages. Allez, prenez note sur la feuille, là, vous avez la feuille du mois, prenez note. Sinon, on va entendre que des feuilles se promener. Mais le premier passage, en tout cas, où... La solitude de Jésus est soulignée dans les évangiles, c'est d'abord dans sa famille, dans sa propre famille. Marc, chapitre 6, verset 3, il dit, il avait au moins quatre frères et deux sœurs. On peut supposer qu'il y avait quatre frères et deux sœurs, on ne dit pas le nombre, mais de par ce qui est écrit, on peut voir qu'il y avait quatre frères et deux sœurs. Et dans le psaume 69:9, une parole qu'on donne à Jésus-Christ, il dit, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Et ces paroles, on les donne à Jésus-Christ. Jésus, parmi sa propre famille, eh bien, il est considéré comme un étranger. Pourquoi? Frères et sœurs, vous avez la lumière dans une famille qui pénètre dans une famille, et vous avez les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et il est rejeté par les propres membres de sa famille. Bon, on sait bien qu'un peu plus tard, on sait qu'à la résurrection, dans Actes chapitre 1, verset 14, il est mentionné que la famille a cru en lui, que ses frères ont cru en lui, mais pendant son ministère sur la terre, eh bien, il est considéré comme un étranger parmi sa famille. C'est ce qu'il cite dans le psaume 69:9. Frères et sœurs, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, si Jésus, qui est le Seigneur, si Jésus, qui est le Sauveur, a été considéré lui-même comme étant un étranger parmi sa propre famille, alors qu'il vient pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, à combien plus forte raison, quand vous allez rendre témoignage dans votre famille, vous risquez d'être aussi considéré comme un étranger. Vous risquez aussi d'être rejeté comme on a rejeté Jésus-Christ. Ça, c'est pas une surprise, ça doit pas être une surprise pour vous. Ça, vous devez considérer ça comme étant une chose normale. En plus, la Bible nous enseigne que nul n'est prophète dans son pays. Alors, frères et sœurs, c'est normal d'être considéré comme un étranger dans son pays. Je vous ai dit il y a quelques semaines, j'ai 6 frères et une sœur. Eh bien, j'avais beaucoup de meilleurs contacts avec eux quand j'appartenais au même royaume qu'eux. Maintenant que je fais partie du royaume des Lumières, on me considère comme étant un étranger dans ma propre famille. Et je suis content que mes parents soient décédés pour ne pas voir ça, mais je suis considéré comme un étranger dans ma propre famille. Et je ne suis pas surpris, puisque la Bible le dit. Je ne suis pas surpris, puisque Jésus l'a subi. Est-ce que le disciple va être plus grand que son maître? Est-ce que vous pensez que le disciple peut être plus épargné que le maître? Peut avoir été? Absolument pas. J'entends des prières souvent, « Merci Seigneur pour la liberté qu'on a en Belgique de proclamer ton évangile. » C'est une belle prière, mais est-ce qu'on le proclame? Moi, je peux vous mettre au défi, commencez à proclamer l'évangile dehors, vous allez vous faire arrêter au bout de 4 heures. Proclamer l'évangile à l'extérieur, vous allez voir que vous dérangez. On a une grande liberté dans notre pays parce qu'on ne proclame pas l'évangile ouvertement. On invite les gens à venir entendre l'évangile. Mais sortons dehors comme un troupeau de brebis pour aller proclamer l'évangile. Vous allez voir, vous n'avez pas une grande liberté. C'est un message qui dérange. Il y a plusieurs années, on est allé servir de la soupe. On s'est fait photographier durant la nuit, en secret. On a été convoqué par un commissaire de police qui nous a fait des menaces. Si on n'arrêtait pas de servir de la soupe, on se fait arrêter. Je n'invente pas, hein, le groupe qui servait la soupe, on était témoins. On dérangeait dans la rue, hein. Ils nous ont même offert un local commercial gratuit pour qu'on serve la soupe. On dérangeait, c'était visible. On dérangeait, on faisait gratuitement. Et ça, Jésus est parti d'en haut, il est venu en bas, il est venu parmi le monde, il a proclamé l'évangile, il dérangeait. Il dérangeait. Proclamez l'évangile, vous allez déranger. Vous savez pourquoi Jésus le dit dans Jean? Parce que vous allez mettre en lumière ce que les gens font de mal. Pas en train de dire, « Toi, tu as péché, toi, t'es ici, toi, t'es ça. » Non. Vous faites simplement proclamer l'Évangile. Et on est confronté. L'Évangile, c'est pas nécessairement qu'elle nous juge, mais elle met en lumière. Elle est un miroir, elle met en lumière ce qu'on est. Et on est des adultes, on est bourrés d'orgueil. On veut pas que les gens nous disent nos défauts. On veut pas que les gens nous disent qu'on fait de mal. On veut être le seul à vouloir s'en délivrer. On veut être le seul à penser qu'on vit bien, qu'on est parfait. Et l'Évangile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ramener l'homme à la pleine réalité de ce qu'il est. Et c'est dérangeant comme message. Surtout qu'on est dans un monde qui vous dit, bien, tout est beau, tout est gentil, peut-être moins avec la crise. Les frères et sœurs ici, premièrement, dans sa propre famille, Jésus va être rejeté, va ressentir cette solitude. Deuxièmement, Gethsémané. Malgré le fait qu'il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il était complètement seul dans son agonie dans le Jordan. Troisièmement, sur la croix, alors qu'il était dans la chambre haute, il avait dit à ses disciples, « Vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et aujourd'hui, frères et sœurs, si vous vivez la solitude, si vous vivez le découragement, si vous sentez que vous êtes abandonné, je vous proclame les mêmes paroles que Jésus. Vous n'êtes jamais seul. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous n'êtes jamais seul puisque Dieu est avec vous. Est-ce que vous êtes amen à ça? Une des dernières paroles de John Wesley avant de mourir, il a dit ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous. Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous. C'est pas un verset biblique, mais ça résume la vie d'un homme de Dieu. Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous. Le monde peut me faire souffrir, le monde peut me rejeter, le monde peut me mépriser, le monde peut me massacrer, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, frères et sœurs? Et il est parti dans la paix du Seigneur. J'aime pas dire qu'un chrétien est décédé. J'aime bien l'expression qu'on utilisait dans l'armée du salut. Quand on faisait un culte de reconnaissance, quand un de nos frères nous quittait, on disait « il vient d'être promu à la gloire ». Et c'est vrai, quoi. Il vient d'être promu dans la gloire. Il entre dans la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, pour tout le monde qui sont ici ce matin, j'espère que c'est votre espérance. Que si aujourd'hui Dieu arrêtait votre cœur de battre, que votre espérance, c'est que vous allez être promu dans la gloire de Dieu. Nous savons à partir des évangiles que Judas l'a trahi, que Pierre l'a renié et qu'effectivement les autres l'ont abandonné et qu'ils ont fui. Il n'y a que sa mère et une poignée de femmes qui l'avaient suivi, ainsi que l'apôtre Jean, qui se tenait tout près de lui lorsqu'il était sur la croix. Pardon. Mais la croix sera l'ultime abandon qu'il vivra au milieu de ce monde des ténèbres. Il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Jésus n'a pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est intéressant, hein? Pourquoi Jésus n'a pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous êtes-vous posé la question? Vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'il avait la conviction d'une chose, même s'il portait le péché du monde sur ses épaules. Il avait la conviction qu'au niveau du Père, jamais l'amour de son Père ne lui ferait défaut. Mais mon Dieu, il avait touché à la sainteté de Dieu. Et lorsqu'il portait les péchés du monde, Dieu a détourné son regard de lui dans sa sainteté. Mais jamais dans son amour, il savait que le Père l'abandonnerait. Jamais, jamais dans son amour. Et c'est pour ça qu'il va dire ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois de sa vie, le Fils était séparé du Père parce qu'il a porté le châtiment que vous méritiez, que je méritais, pour les péchés qu'on a commis. Et il ne dira pas « mon Père » parce qu'il savait que son Père l'aimait. Il savait que c'était par amour que son Père l'avait envoyé. Et il savait que son Père ne l'abandonnerait pas parce qu'il était en train d'accomplir l'œuvre parfaite pour laquelle il avait été appelé. Mais il était capable de dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui a été dans la présence du Père depuis toute éternité, savait qu'en portant notre péché sur ses épaules, il savait que dans sa sainteté, Dieu ne pourrait pas le regarder, vous devez détourner la face de son Fils pour pouvoir garder vos nos, pour pouvoir garder ses yeux fixés sur vous. Et frères et sœurs, si Dieu a encore le regard fixé sur vous, ce n'est pas en fonction de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, c'est en fonction de ce que Christ a accompli dans la croix, on ne doit jamais oublier ça. Vous ne faites peut-être rien de mal, mais on n'est pas convaincu que nos pensées, par contre, sont toujours bonnes. S'il fallait un dimanche matin que Dieu, dans un miracle extraordinaire, quand on rentre tous ici, pouvait afficher toutes les pensées qu'on a les uns vis-à-vis des autres, on ne serait peut-être plus jamais capable de s'en rappeler. Je ne suis pas convaincu qu'on a toujours eu les bonnes pensées. Heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos pensées, selon nos actions et selon nos paroles. Et la Bible nous dit que tout ce qu'on aura raconté dans le secret, à la fin des temps, ça sera révélé à la face du monde. À réfléchir, ça. Heureusement que Dieu le garde pour la fin du monde. S'il devait le déclarer maintenant, peut-être l'église serait vide la semaine prochaine. Et frères et sœurs, Dieu, l'amour de Dieu ne nous fera jamais défaut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris la claque. C'est lui qui a subi le châtiment. C'est lui qui a mangé la raclée qu'on méritait. Pas extraordinaire, ça. Pourquoi pas dire, Père, tu m'as abandonné? Non. C'était par amour que le Père l'avait envoyé. Et il savait qu'il y aurait toujours l'amour de Dieu pour l'accompagner. Jamais cet amour-là ne lui ferait défaut. Et j'espère aussi que c'est votre conviction dans votre cœur ce matin. Jamais l'amour de Dieu ne vous fera défaut. Quand vous baignez dans le péché, c'est pas son amour qui fait défaut. Vous touchez à la justice de Dieu, Dieu va détourner son regard. Mais jamais, jamais son amour va vous faire défaut. Dieu vous rejettera pas. Le cœur de Dieu va être attristé. Le cœur de Dieu va saigner. Mais jamais son amour va vous faire défaut, parce que là, on a un problème. Ça rentre dans le cadre de sa fidélité qui est éternelle. Et la sainteté de Dieu n'est pas capable d'avoir un enfant, de ses enfants qui baignent dans le péché alors qu'il proclame qu'il appartient au royaume de Dieu. Mais par contre, si vous vous détournez de votre péché, vous le confessez, vous vous repentez, l'amour de Dieu est toujours là pour vous tirer, pour vous prendre la main. Elle est toujours là. Ce n'est pas qu'à temps que vous tendiez la main, il y a toujours la main tendue pour vous prendre. Il s'agit de le faire. Il s'agit de se détourner de son péché. Quelqu'un me demandait la semaine passée, Qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis que nous, on représente, que Dieu joue sa réputation à travers nous? Frères et sœurs, Dieu, il est esprit. On ne voit pas Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, on a vu Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, le temps que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Il dit, maintenant que je m'en vais, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et pour confirmer que vous êtes la lumière du monde, je vous donne mon esprit. Frères et sœurs, vous représentez Dieu sur la terre, vous faites partie du royaume de Dieu. Quand je dis que Dieu joue sa réputation à travers vous, c'est que les gens, vous êtes censés donner le goût, comme Jésus le donnait à son époque, donner le goût aux gens de passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Non pas seulement en fonction de ce que vous dites, mais comme Jésus, en fonction aussi de ce que vous faites. Si Jésus avait prêché et fait le contraire de tout ce qu'il disait, on s'est encore perdu dans notre péché. Jésus a proclamé les choses, ce qu'il proclamait, il le met en pratique. Maintenant, on peut trouver comme excuse qu'on n'est pas Jésus, c'est vrai, mais je tiens à vous dire qu'on a le même esprit que lui. On a le même esprit que lui. Et qu'en Jésus-Christ, on a la capacité de reproduire ce que Jésus faisait sur la terre. Maintenant, il y en a qui peuvent mettre en doute ma parole, alors je vous mets au défi, à partir de toutes les épîtres de Nir, vous ne trouverez jamais Paul traiter un chrétien de pécheur quand quelqu'un est converti. Jamais Paul n'utilise le mot pécheur pour un chrétien qui est né de nouveau. Jamais. Jamais. Jamais Paul va dire, ah, t'es chrétien, t'es toujours pécheur. Non. Quand on parle de Romains chapitre 7, il parle, oui, ce que je veux faire de bien, je fais mal, puis ce que je fais de mal, ce que je voudrais pas faire, je le fais bien. Et c'est, il est en train de parler avant sa conversion, quand il était pharisien, dans sa nature humaine. Et là, au chapitre 8, il parle de sa nouvelle naissance, il dit, gloire soit rendue à Dieu. Et un monde nouveau s'est ouvert. Là, je combattais par ma propre chair, puis je n'étais pas capable d'arriver à lutter contre le péché. Ah! Dans le 8, c'est terminé. C'est plus lui qui lutte, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Il t'emmène à ça. C'est important. Hey, Ça fait 50 ans que l'Église est dans un esprit souvent défaitiste. Ah, oh, je suis pécheur, puis je nous montre pécheur, puis je vais mourir pécheur. Sauvé par grâce, mais je vais mourir pécheur, quoi. Hey, mais il y a plus que ça. Plus que ça, frères et sœurs. Plus que ça. On va aller tout de suite à l'enseignement qu'on peut retirer du psaume 102, rapidement, versets 2 et 3. Versets 2 et 3. Avez-vous regardé ce gars-là, il crie. Il crie. Vous savez pourquoi? C'est un passionné. C'est pas un gars qui fait une prière parce qu'il veut en faire une. C'est un passionné. Et c'est ce que Dieu veut de ses enfants. Des passionnés. Parce que Dieu a une passion pour les âmes perdues. Parce que Dieu veut encore que des brebis soient sauvées aujourd'hui. Je t'amène à ça. Ici, le gars, on répond à sa prière parce que c'est un passionné. Écoute ma prière, Seigneur, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse. Incline vers moi ton oreille attentive quand je hâte toi de m'excuser, de m'exaucer. Seigneur, dépêche-toi. Dépêche-toi, réponds à ma prière, Seigneur. Laisse-moi pas dans cette situation-là, Seigneur. Parce que je ne te lâcherai pas. Je vais continuer à prier tant et aussi longtemps que tu ne me répondras pas. C'est pas, je suis, oh Seigneur, tu as entendu ma prière. Bon, ben écoute, Seigneur, je vais attendre maintenant les deux bras croisés que tu me réponds. Je vais bouger à partir du moment où j'aurai la réponse, Seigneur. Ben, il bouge, il risque de mourir sans avoir bougé, quoi. On est en présence d'un passionné ici. Et il dit, moi, écoute, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant aussi longtemps que j'aurai pas eu la réponse, quoi. Ouais. Et ça, c'est le combat que doit livrer l'Église de Jésus-Christ. Ça commence dans la prière. Moi, je suis triste parce que dans les réunions de prière, c'est le ministère où il y a le moins de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que les combats se livrent et c'est là que les victoires se remportent. C'est dans la prière. Et dans la prière, vous savez pourquoi c'est pas intéressant toujours d'aller dans les réunions de prière? Parce qu'on intercède auprès du trône de Dieu. On rentre dans le monde de l'invisible. Et on fonctionne tellement par les yeux. On est tellement une génération qui fonctionne par les yeux que pour être encouragé, on a besoin de voir, toujours voir, voir des résultats. Pourquoi? Voir des résultats. Oui, ça rapporte que je prie. Oui, le Seigneur me répond. Non. Frères et sœurs, c'est le domaine le plus difficile, c'est la prière. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez de neutraliser le diable. Parce que vous venez d'empêcher le diable d'agir dans vos vies, puis d'agir dans la vie des autres. Parce que quand vous priez, vous donnez autorité à Dieu d'agir dans votre vie, dans la vie des autres. Et le diable, c'est là qu'il veut vous neutraliser. Le diable veut vous empêcher de prendre le téléphone puis de parler au Père Céleste en haut. Lui, il est toujours décroché en haut à son téléphone. Hein? Il est toujours là, puis il attend qu'on lui parle, quoi. Hein? C'est nous qui devons décrocher. Et par toutes sortes de subterfuges, hein, le diable, il nous arrête et nous empêche de décrocher le téléphone pour pouvoir parler à notre Père Céleste. Et il remporte souvent la victoire. Et j'ai pas toujours la victoire, moi non plus. J'ai mes problèmes, moi aussi, quoi. J'ai mes faiblesses. Mais le combat, il est là. Le combat, il est là. On avait une église qui priait, qui était sur ses genoux, qui priait jour et nuit. On n'aurait même plus besoin de méthode. On n'aurait plus besoin de personne. On verrait les gens venir à l'église. Dieu placerait dans leur cœur cette conviction de péché. Puisqu'on prie et on rentre dans l'invisible, on va voir Dieu agir de façon invisible dans le cœur des gens. On n'aurait plus besoin de méthode pour attirer les gens dans nos églises. On devrait refuser des gens dans nos églises. Il y avait un homme dans le ministère de Charles Finney qui priait. Un. Un pasteur qui a dit, moi j'abandonne mon ministère pour consacrer ma vie dans la prière pour l'œuvre de Charles Finney, parce que je reconnais que cet homme-là a un puissant message de réveil dans sa vie. Il a laissé tomber son ministère. 2 semaines avant que Charles Finney allait dans une ville, il s'appelait le Père Nash. Il allait frapper aux portes du village. Est-ce que vous pouvez me laisser dormir dans votre cave pendant 2 semaines? Je veux juste prendre un temps de prière. Il priait pendant 2 semaines dans le jeûne. On faisait aucune annonce que Charles Finney viendrait dans la ville. Les églises étaient remplies à tous les soirs, on refusait des gens. Parce que c'est Dieu qui faisait l'invitation directement dans le cœur des gens. Finney a passé à New York pendant 2 ans après son passage. Les cafés ont été fermés, les théâtres ont été fermés. Il n'a jamais prêché contre les cafés, il n'a jamais prêché contre les théâtres. Frère et soeur, le problème de l'église moderne aujourd'hui, c'est pas son activisme, c'est son manque d'activité dans la prière. La prière, frère et soeur. Quand vous serez convaincu que la prière, c'est la chose essentielle à laquelle vous êtes appelé, allez voir Dieu faire des miracles dans vos vies. Et pour tous ceux que vous priez depuis des années, vous allez les voir arrivant pleurant, repentant devant le trône de la grâce de Dieu, implorant le Seigneur d'avoir pitié d'eux. Ils n'auraient pas besoin d'aucune méthode pour les convertir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous êtes amen à ça? 5 requêtes ici, dans la prière du psalmiste ici. Versets 2 et 3. Écoute ma prière. 2. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. 3. Ne me cache pas ta face. Seigneur, ne te détourne pas de moi, Seigneur. 4. Incline ton oreille vers moi. Et 5. Dépêche-toi de me répondre. Et frère, on voit ici clairement, frère et sœur, que le psalmiste, il ne prie pas. Il ne prie pas parce qu'il doit prier et que c'est un fardeau pour lui. Il prie parce qu'il sait que là-haut, quelqu'un désire s'occuper de lui et qu'il est tellement précieux à ses yeux qu'il va prier. Il se trouve dans une situation de plus en plus désespérée avec un cœur passionné. Il va prier pour 4 autres choses. On va terminer avec ça. 4 autres choses. Versets 14 et 15. Il va prier pour la reconstruction de Jérusalem. Frère et sœur, si lui, à son époque, était capable de prier pour la reconstruction de Jérusalem, à combien plus forte raison, nous, dans le monde laïque dans lequel on vit, dans le monde de péché dans lequel on vit, on devrait prier pour que la Belgique puisse être reconstruite sur des bases, être construite sur des bases qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est vrai que la mission est impossible avec nos propres forces. Mais comme Paul, que nous puissions avoir la certitude que c'est en Christ qu'on se fortifie et qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Je t'amène à ça. C'est important. La prière. Verset 14-15, il prie, il parle de Sion, la reconstruction de Jérusalem. Versets 16, 22 et 23, la conversion des nations païennes. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 6000 groupes d'individus autour du monde qui n'ont pas encore accès à l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas été évangélisées, 26% du monde, que nous retrouvons principalement dans 38 pays qui sont pour la plupart musulmans et hindous? Est-ce que vous savez que malgré le fait que 2,5 milliards de personnes confessent être chrétiens dans le monde, les différentes missions répandues à travers le monde estiment que 90% de la population mondiale est perdue, est en voie de perdition? Est-ce que vous savez qu'il y a 340 millions de personnes qui vivent en Amérique du Nord, et on estime que 258 millions de ceux-ci sont perdus sur la voie de la perdition? On estime que 100 millions de chrétiens subissent de graves persécutions à travers le monde, principalement dans le monde musulman, en Corée du Nord et dans certaines parties de l'Inde, là où on retrouve des extrémistes religieux. Un peu plus de 350 millions de chrétiens sont opprimés et subissent la discrimination. Plus de 22 millions de personnes sont dépendantes des drogues ou ont subi des abus de toutes sortes aux États-Unis. 22 millions. Il y a 340 millions de population aux États-Unis. C'est pas loin du 10 %. On estime que 6 à 8 % des Américains sont esclaves du sexe, ce qui représente 24 millions de personnes. Avec toutes les conséquences que ça peut amener vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes. Frères et sœurs, le monde est constamment en train de changer. Les mœurs changent, la technologie change. Le changement est le principal facteur d'anxiété et d'insécurité dans nos vies. On est tous suspendus dans nos télévisions pour savoir ce qui va changer au niveau du budget des gouvernements. La chose la pire pour un être humain, c'est d'entendre parler de changement. Parce que ça l'insécurise. Le changement, il ne sait pas ce qui va venir après. La plus grande difficulté quand on proclame l'Évangile de Jésus-Christ, une des premières choses qui empêchent les gens de venir, c'est qu'ils savent qu'ils doivent changer, qu'ils vont avoir un changement dans leur vie. Et ça fait peur parce qu'ils ne savent pas à quoi correspond ce changement. Mais on peut faire confiance au Seigneur parce que c'est toujours le meilleur qui nous attend avec le Seigneur. Vous savez, si le monde change, et je vais terminer avec ça, c'est ce qui est écrit dans les derniers versets ici, ce qui est réjouissant et sécurisant pour nous, c'est que si le monde change, le psalmiste nous dit ici que Dieu ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Donc, on ne sera jamais pris par surprise. Si Dieu dit qu'il nous aime d'un amour éternel, il nous aime d'un amour éternel. Si Dieu nous dit que sa bonté, elle est éternelle, sa bonté, elle est éternelle, frères et sœurs. Son amour ne changera jamais, sa miséricorde envers nous ne changera jamais. La grâce qu'il nous a accordée ne changera jamais, même lorsque nous manifestons un esprit incrédule, un esprit d'incrédulité à son égard, il ne change pas, il demeure fidèle à ses promesses. Et lorsque la vie est incertaine, je trouve un grand réconfort dans ce qui est écrit dans la Bible. Je le répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui qui s'appelle Jésus est toujours en train de chercher aujourd'hui la brebis perdue. Il est toujours en train d'intercéder pour ceux qui lui appartiennent devant le trône de son Père. Et il est toujours en train d'inviter quiconque le veut bien à son grand banquet, les noces de l'agneau. J'espère, frères et sœurs, que vous êtes dans la paix ce matin. Parce que si le monde change, Dieu ne change pas. Si vous êtes découragé, désespéré, eh bien, vous pouvez toujours vous présenter votre prière devant le trône de la grâce de Dieu. Parce que comme notre psalmiste, j'espère que vous allez y aller en criant. J'espère que vous allez y aller de façon passionnée, avec la certitude que Dieu tend l'oreille, que Dieu écoute et que Dieu va répondre à votre prière. Et ne vous contentez pas de prier, de supplier une seule fois. Ne lâchez pas le trône de la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il vous réponde. Il y a des raisons pourquoi Dieu tarde, on le voit dans Daniel, mais ne lâchez pas le Seigneur tant et aussi longtemps que Dieu ne répond pas. Pourquoi Dieu attend des fois? Parce qu'il veut aussi vérifier les motifs qui nous poussent à prier. Si c'est des motifs égoïstes, il ne répondra pas. Mais si c'est pour le bien de mon prochain, si c'est pour me faire grandir dans la foi, Dieu va répondre à nos prières. Dieu va répondre à vos prières, comme il a déjà répondu aux miens dans le passé. Amen.